Donc on prend, on est au milieu de la page, on est au milieu de la page Samertet, on est dans notre deuxième cours, sur le Perek Memtet, sur le chapitre 49. Qu'est-ce qu'on a expliqué au début du chapitre 49? Au début du chapitre 49, on est toujours dans la même lancée de ce qu'on a expliqué dans le chapitre 48. On a expliqué longuement comment, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, pour créer notre monde Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dû extrêmement se limiter. On a expliqué longuement dans le chapitre 48 la rupture, et comment après la rupture, Akadosh Baruch Hu a, comment après la rupture, Akadosh Baruch Hu, il y a eu Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya, etc. Bon, alors, Yaakov va nous rappeler, hein, c'est quoi les noms qu'on a donnés pour Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya la semaine dernière.
On a dit que Atzilut, c'était le monde de l'émanation.
Donc le monde où tout est spirituel. Donc, alors, deux secondes. Déjà, on a expliqué que, t'es avec nous...
Oui, voilà, je télécharge.
Ah, mais ce sera après le cours, après le cours.
Complètement spirituel, non ?
Parce que moi, j'ai pas envie de parler à des iPhones.
Non, ça n'est qu'un moyen.
Émanation, uniquement alors, spirituelle.
Donc on a dit Atzilut. Que c'est quoi Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya ? Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya, c'est les étapes pour transférer du spirituel en matériel. Voilà, c'est ça en gros. Donc c'est subjectif, c'est pas spécialement des mondes, etc. C'est subjectif, c'est toutes les étapes qu'il faut pour transférer le spirituel en matériel. On a donné un exemple très simple la semaine dernière, on a donné l'exemple de la pensée. Par exemple, imaginez-vous, je suis bloqué sur un sujet, et tout à coup, j'ai une idée qui me vient. D'où elle vient cette idée? D'où vient ce flash? Pourquoi j'ai réfléchi pendant une heure, et cette idée n'est pas venue, et tout d'un coup, l'idée est venue. Tout à coup, l'idée est venue. D'où elle est venue?
Tu étais en excès de vitesse.
D'accord? D'où elle est venue, l'idée? L'idée, elle est venue du spirituel. Mais quand elle était en mode spirituel, je ne la sens pas. Dès que je sens la lueur, je sens que, ah, il y a une idée, là, l'idée commence à se matérialiser. Si j'attrape l'idée et je vais essayer de la réfléchir, je vais faire descendre, plus je vais avancer et plus je vais faire descendre l'idée. Jusqu'à la fin, je vais concrétiser l'idée. Et vous savez, on peut avoir cet exemple-là, j'ai lu aussi cette semaine, j'ai lu dans un autre livre, il disait un exemple, il y a un exemple d'un cas où on peut voir clairement, je l'ai dit à David cet après-midi, la concrétisation du spirituel vers le matériel. On peut le voir clairement hein, lorsqu'une personne va écrire un livre. D'accord ? Imagine-toi, Gis Madja, tu dois écrire un livre. Qu'est-ce qui se passe ?
Voilà,
j'ai imagine-toi, imagine-toi que tu dois écrire un livre. Tu veux écrire un livre sur quelque chose. Quelles sont les étapes par lesquelles tu dois obligatoirement passer pour écrire ton livre ?
J'ai déjà l'idée du livre ou pas ?
T'as l'idée du livre, tu veux écrire un livre sur quelque chose.
D'accord.
Faire un plan.
D'accord ?
Ouais, déjà faire un
qu'est-ce
plan.
Que tu dois faire d'accord. Pour écrire ton livre ? Donc, tu as dit d'abord avoir une idée. D'accord ? Donc avoir une idée, c'est-à-dire avoir une idée générale de à quoi sert mon livre ? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message par mon livre ? On est d'accord ? C'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire ? Fais comme si tu étais en train de faire un programme informatique, voilà.
Un programme informatique ?
Ouais. Voilà, donne-moi les étapes.
En quel langage ?
Ce que tu veux.
Ah. Comment ça parler
non, mais le langage, c'est déjà une décision qui doit venir après.
En ce cas, ouais,
le langage, d'abord, il faut le...
D'abord, il faut réfléchir, hein. Qu'est-ce que, exactement, l'aboutissement du produit. Pourquoi je veux ce produit ? Qu'est-ce que je veux faire avec ce produit ?
Et donc, on va le matérialiser petit à petit.
Une seconde, donc, non, mais attends, on va faire les étapes. Tout d'abord, je vais réfléchir, il faut que j'ai l'idée générale, quand, qu'est-ce que je veux obtenir ? Qu'est-ce que je veux obtenir du programme informatique que je veux faire ? Ensuite, une fois que j'ai l'idée générale, je vais faire des chapitres dans un livre. C'est pas que je vais me mettre à écrire, après je dis, bon, bah, s'il y aura 20 chapitres, 30 chapitres, non, c'est pas comme ça. Une fois que tu as l'idée générale, après, il faut que tu structures l'idée, d'accord ? De manière à ce qu'après, tu dois seulement écrire les chapitres. Mais il faut que dans ta tête, ce soit déjà structuré, qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, je comprends pas. D'accord ? Différentes étapes. Le business plan. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Une fois que tu as ça, là, tu vas commencer à prendre l'ordinateur et à taper. À taper, copier, coller, etc., et corriger, etc. Jusqu'à la fin, dernière étape, le livre, il est fini, corrigé, etc., tu vas imprimer. Donc si on réfléchit le nombre d'étapes par lesquelles on a dû passer pour arriver au livre imprimé. Tout d'abord, j'avais une idée dans la tête, une idée que j'étais même pas moi-même capable de définir. Donc j'ai dû d'abord définir clairement quel est le but pour lequel j'écris le livre. Il y a un but pour lequel j'écris le livre. Il y a un but pour lequel j'écris mon programme. Deuxièmement, après, j'ai structuré. J'ai fait un visio. Hein, comment c'est visio ? J'ai fait
un plan.
J'ai fait un plan dans lequel je montre clairement, d'accord, où je veux aller et comment je vais arriver à cet endroit où je veux aller. On est d'accord, c'est comme ça qu'on fait ? Une fois que j'ai fait ça, là, je vais commencer à écrire. Celui qui commence à taper directement, à faire du code directement, celui qui commence à écrire son livre directement, c'est sûr que d'abord, il va perdre du temps, D'accord, il risque de se planter, parce qu'il va commencer à écrire, après il va dire en plein milieu, il va dire, bon, je rajoute un paragraphe, j'enlève un paragraphe, ça ne pourra pas se lire facilement, et il n'y arrivera pas où il veut aller, parce qu'il faut un plan. Dans l'exemple que je viens d'expliquer ici, on voit clairement comment l'idée à la base qui était presque abstraite, progressivement, on l'a structurée, et ensuite on l'a travaillée, copiée, collée, écrite, etc., jusqu'à ce qu'à la fin on a livré un produit fini. Donc on voit clairement comment, à la base, c'était une idée qui était presque abstraite, donc ça a démarré presque du spirituel, et plus on a avancé, plus ce spirituel, on l'a matérialisé, jusqu'à qu'à la fin, j'ai un livre clair, bien écrit, bien structuré. Donc là, on voit que ça, c'est exactement Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est totalement spirituel, entièrement spirituel.
Donc, c'est là que d'où l'idée, elle vient.
Non, ah oui, c'est d'où l'idée, elle vient. Ça, mais ça, je ne le connais pas, ça, je le vois pas. Bria, c'est lorsque je commence à voir l'idée. J'ai l'idée. Pourquoi je vais écrire le livre ?
Non, mais le flash.
D'accord ? Le flash, c'est Bria, déjà. Dès que je vois un flash, la lueur, c'est déjà un début de matérialité. D'accord ? C'est déjà un début. Je vois quelque chose, déjà. Le spirituel, on ne voit pas du tout. Donc, Bria, ça, c'est la première étape. C'est quand je vois la lueur, ça veut dire que je vois l'idée générale. C'est comme le livre. C'est pour ça que je pense que le livre, c'est un très bon exemple. Comme dans le livre. Ça veut dire, avant d'écrire le livre, avant de structurer le livre, je sais, en gros, qu'est-ce que je veux que mon programme informatique fasse. Comme ça, on fait guide dans les programmes informatiques. Il faut d'abord que je sache qu'est-ce que je veux qu'il fasse, mon programme.
Mais quand tu as une inspiration, ça ne se passe pas aussi de manière mathématique comme ça. Hein. L'inspiration, justement.
Oui,
tu ne fais pas un plan, t'es inspiré, tu vite te dépêches.
On ne parle pas forcément d'une inspiration. On parle peut-être d'une inspiration recherchée. Je cherche quelque chose.
Non, mais l'inspiration, t'as l'idée, elle t'amène l'idée.
Oui, justement. Mais ce que je veux montrer dans cet exemple ici, c'est que...
C'est pas toi que je réponds à lui.
C'est que même quelque chose qui est recherché, je cherche à arriver à une conclusion, on doit passer par ces étapes-là. Donc l'idée, d'accord. Enfin, tout celui qui a déjà commencé à écrire quelque chose, ou essayer de faire un essai, ou essayer d'écrire un programme informatique, il est passé par ces étapes-là. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir l'idée générale, où je veux arriver, d'accord. Ensuite, il faut structurer. Une fois que c'est structuré, là, tu peux commencer à coder, là, tu peux commencer à écrire. On doit passer par ces étapes-là. Donc ça, c'est Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est ça. C'est donc l'étape de la... Donc c'est les trois étapes, enfin les quatre étapes, si on peut dire, de la transformation
du spirituel
en matériel.
Donc tu es en descendant.
Tu es en descendant, exactement. Vétachlit, je vais être Vétachlit. Tu vois. Vétachlit kol atintsumim, ou ke délivro gufa adam achumri. Le but maintenant de toutes ces contractions, parce qu'on a expliqué la semaine dernière longuement, que chaque fois qu'on descend, on va contracter encore plus. C'est comme, là, encore une fois, je reprends mon exemple du livre. Hein? Celui qui a eu l'idée à la base du livre, il a eu une idée. À la fin, il va se retrouver en train de relire son livre. Ça va l'amuser. Pourquoi ça va l'amuser ? Parce qu'il va se dire, bon, c'est pas mal ce que j'ai fait, mais l'idée à la base, telle qu'elle me paraissait, ça me paraissait beaucoup plus lumineux. Alors que là, je ne sais pas si celui qui va lire, il va comprendre. Parce que celui qui va lire, vous suivez, il doit faire le contraire. Il doit démarrer du texte pour arriver... tout en haut. Alors que lui, il a démarré d'en haut pour arriver en bas. C'est ça ce que tu voulais dire. Ça. Donc, quand je lis le résultat fini, quand j'ai fini mon programme, je me dis, mais je ne sais pas s'ils vont comprendre la richesse qu'il y a derrière.
C'est tout, d'accord ? Le talent, c'est ça.
Bien sûr. Je ne sais pas s'ils vont comprendre. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois, on peut vraiment dire qu'à chaque fois, dans chacune de ces étapes, on va matérialiser. Plus tu matérialises, et moins on voit la richesse de la chose. Il faut la chercher. Tu peux lire le livre, tu as l'impression que c'est des lettres, il n'y a rien d'intéressant. Donc, Vetachlit Kolatin Tsumimhu, le but de toutes ces contractions, de toutes ces descentes, ou que délivre Goufa Adam Achumri, c'est pour créer le corps de l'homme qui est matériel. Ça veut dire comme ça, rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Pour arriver à la création du monde, on est passé par plusieurs étapes. On est passé par la création des anges, on est passé par les Neshamod et Tzadikim, etc., etc., jusqu'à arriver à notre monde. Qu'est-ce qu'il nous dit là de Morazaken ? On l'avait déjà vu dans le chapitre 36. Le but de toutes ces contractions, c'est ni pour niveau 1, ni pour niveau 2, ni pour niveau 3, mais c'est pour le dernier niveau. C'est pour le moins 4. Dernier niveau. Ou que délivre Goufa Adam Achumri, ou les Kafia, les Sitra Achara, Vliot, Itrona, Omin Rocher. C'est pour que grâce à ça, on pouvoir transformer le Sitra Achara, donc le mal, et qu'on pourra avoir Itrona, Omin Rocher. La supériorité de la lumière sur l'obscurité. Alors je vais expliquer ce qu'il veut dire Michel de Morazaken. Oui.
Oui, juste une petite question. On doit comprendre par là que quand on est à l'idée.
Oh. Azak. Il n'y avait rien en frigidaire ?
Rien. Il n'y a pas un truc un peu à utiliser pour le bassaler ?
Alors. Bon, on verra après.
Après ? Ouais.
Quand tu pars d'une idée. tout aussi lumineuse qu'elle est, le fait déjà de la descendre dans ces niveaux-là, j'ai l'impression de lui faire perdre une certaine hauteur.
Oui, et je lui fais perdre une certaine hauteur, c'est sûr ça. Parce que je vais la limiter dans des mots. Et j'espère que celui qui va la lire, il va être capable de retrouver ça dans des mots. Mais tu vas la limiter.
C'est comme si tu la zippes.
Exactement. Tu vas la zipper et après il faudra quelqu'un qui sera capable de la dézipper. Bon. Alors, je vais raconter une petite histoire. Pour illustrer, c'est pas écrit dedans, pour illustrer ce que... Pour illustrer ce que... J'imagine que c'est pas écrit. Pour illustrer ce que l'Admora Zaken veut dire ici en disant la supériorité de la lumière sur l'obscurité. C'est écrit dans le Kohelet. C'est une histoire que un des élèves du Admora Zaken s'appelait Rabbi Binyamin Kletzker, donc de la ville de Kletzk, donc appelé Kletzker, comme le Rabbi de Kotz qu'on appelle le Kotzker. Comme ça, c'est bon. Brisker, voilà. Donc, un des élèves de Admora Zaken, un des grands élèves, un grand gaon, c'était, on l'appelait Rabbi Binyamin Kletzker. Il racontait l'histoire suivante, la parabole suivante pour illustrer ce que l'Admora Zaken veut dire au début du chapitre 49. Il dit, une fois il y avait un roi qui est parti une fois se balader seul dans la forêt. Il est parti se balader seul dans la forêt. Il connaissait très bien la route, il faisait depuis qu'il est petit, mais manque de chance, d'accord, il y a eu des intempéries, etc., il a perdu sa route. Il a perdu sa route, et la nuit est tombée. La nuit est tombée, il est dans la forêt, et il entend des bruits d'animaux assez féroces qui font clairement comprendre qu'ils ont faim. Ils ont un odorat, ils sont capables de vous retrouver un homme à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Et il sent que...
C'est chaud.
Il sent que c'est chaud, quoi. Il sent que c'est la fin. Il se met à réfléchir, il dit, j'imagine, j'étais un grand roi, et comment je vais être dans les intestins d'un lion, de quoi je vais avoir l'air. Enfin, il se met à réfléchir à la fin, quoi. Il n'est pas juif, mais presque, il dit chemin Israël.
Il est pas juif.
Donc, et il se met à réfléchir à la fin, quoi. Il se dit, ça y est, je vais partir, c'est la fin. Et bon, bien entendu, vous imaginez qu'il y a une happy end. Il voit de la lumière au fond, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une petite maison avec de la lumière. Donc il va toquer à la porte, qui c'est qui va lui ouvrir ? Comme dans les histoires, happy end, un paysan il lui ouvre la porte. Le paysan lui ouvre la porte, il est habillé avec des haillons, il est mal habillé, etc. C'est presque pas chauffé chez lui. Mais bon, il ne sait même pas qu'il a affaire avec le roi, il l'accueille. Donc il lui donne à boire quelque chose, c'est un semblant de soupe, froid, pas bon, etc. Et il essaye de lui donner des vêtements, parce qu'il s'est mis les vêtements, il s'était mouillé, mais il va lui donner des vêtements tout troués pour se recouvrir. Et après, à la fin, il lui propose de dormir. Sur quoi dormir ? Sur de la paille. Et le roi est très content et tout. Bon, il passe la nuit. Le lendemain, le paysan, mais bien sûr, il est du quartier, donc il explique au roi, il dit, pour rentrer, voilà, vous passez par là, vous rentrez chez vous. Bon. Il arrive chez lui. Le roi, quand il arrive au palais, qui demande à ce qu'on aille chercher ce paysan, et il le nomme un de ses plus grands ministres en récompense. Alors, il y a eu un des ministres qui a posé la question au roi, il a dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il vous a donné déjà ? Il vous a donné de la soupe, froide, pas bonne. Il vous a fait dormir sur de la paille. D'accord ? Il faisait froid chez lui. Enfin, qu'est-ce qu'il vous a donné déjà ? Nous, on vous donne beaucoup plus que ça. Il a posé la question. Et le roi lui a répondu à la chose suivante, il a dit, je vais t'expliquer. Au point où j'en étais, la soupe qu'il m'a donnée, c'est le meilleur repas que j'ai goûté de ma vie. Le sol sur lequel j'ai dormi, c'est le meilleur lit, c'est le meilleur sommeil que j'ai pu avoir. Et Rabbi Kletzker a raconté cette parabole-là pour montrer que, de la même manière, nous, quand on se pose la question, on dit, mais qu'est-ce que valent le mitzvot par rapport à Kadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce que ça vaut finalement ? On nous demande de faire l'amida, de faire les mitzvot, etc. Mais si déjà on arrive à se concentrer à 5% de l'amida, c'est déjà pas mal. Se concentrer comme il faut, bien comprendre, bien avoir la tête, etc. Qu'est-ce que ça vaut devant Kadosh Baruch Hu ? Quoi ça sert ? Quoi ça sert ? C'est la question que le ministre avait posée au roi. Il a dit, mais qu'est-ce que vous a donné ? Vous avez donné une soupe pas bonne, froide. Qu'est-ce que vous a donné ? Qu'est-ce qu'il a répondu le roi ? Le roi, il a répondu, oui, mais à l'endroit où j'étais, cette soupe-là, c'est le meilleur repas que j'ai pu avoir. C'est ça ce que l'Admora Zaken dit ici, quand il dit « Yitron ha'or min ha'chosher ». La supériorité de la lumière vient « min ha'chosher » lorsqu'elle se trouve à côté de l'obscurité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un endroit obscur, plus vous êtes dans l'obscurité, et plus vous allez être capable d'apprécier la beauté de la lumière. « Itron haor minachosher. C'est un proverbe du roi Salomon.
Itron, c'est la qualité. Là.
La qualité, la supériorité. Mais comment il dit ici ? La qualité de la lumière par rapport à l'obscurité.
Peut-être qu'il a fait le même sens que tu lis, toi.
Comment ?
La qualité de la lumière près de l'obscurité.
Oui.
Est plus importante que la lumière.
Parce qu'ici, il dit minachosher.
C'est ça. Parmi.
Quand ?
Parmi l'obscurité.
Minachosher, ça veut dire quand elle est issue de l'obscurité. Lorsqu'elle se trouve à côté de l'obscurité, c'est là qu'on voit la qualité de la lumière. Il trône à or, mine à rocher. Parce que le Zohar pose la question suivante. Il dit, a priori, le roi Salomon, il nous dit, Vera itiani, donc je vous lis les mots du roi Salomon dans Kohelet. Il dit, Vera itiani, shiesh, il trône la or, mine à rocher. Il dit, moi, j'ai compris, le roi Salomon,
la
supériorité de la lumière sur l'obscurité. Alors le Zohar pose la question, il dit, mais... Même un enfant, il comprend que... Même un bébé, il comprend que la lumière, c'est mieux que l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a compris, le roi Salomon ? Et le Zohar explique à Baal Shushan, il dit non. Ce que le roi Salomon, il veut dire, c'est que si tu veux comprendre la beauté de la lumière, il faut la comparer à l'obscurité. C'est comme un proverbe de la Gemara qui dit « Char gabeti aramai aane » qu'une bougie face au soleil, à quoi ça sert ? Ça veut dire que même si la bougie est une bougie, même si la bougie face à l'obscurité me sert à quelque chose, mais la bougie face au soleil... Je ne suis pas capable d'apprécier sa qualité. Donc de la même manière, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait toutes ces tzimtzumim ? Il a fait la grande rupture, et après il a descendu. Donc on a dit, comme on a expliqué toutes les étapes pour matérialiser le
spirituel.
Tout ça pour qui ? Pour l'homme. Mais attends, là il y a les malachim qui posent des questions, il dit, mais attends, l'homme il t'a donné une soupe qui est pas bonne, qui est froide, il t'a fait dormir sur de la paille. Toi, Akadosh Baruch Hu, t'es un palais, toi, qu'est-ce que tu prends la tête avec toi là ? Une bonne question ? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu ? Kadosh Baruch Hu dit oui. Mais à l'endroit où ils sont, c'est le meilleur repas que je peux avoir. C'est le meilleur repas que j'ai pu goûter. Itron haor minachosher.
Pourquoi il parle de citra achara ? Parce que c'est quelque chose qui est...
C'est ça. Ou les kafia les citra achara. Lorsque l'homme va repousser à chaque fois constamment son yetzarara, l'autre côté, d'accord ? Chose que les malachim ne connaissent pas. C'est ça ce qui va faire que Kadosh Baruch Hu va apprécier ce repas beaucoup plus que le repas de Malachim.
Sitra Achara, j'ai pas à comprendre comme les trois sources d'impureté qui peuvent pas...
Non, Sitra Achara, c'est un terme général pour dire tout ce qui est l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la Kdusha.
Clipote ?
Tout ce qui est clipote. Sitra Achara, la traduction, c'est l'autre côté.
Le côté obscur. Bah alors ? Je vais y aller, je vais au cours.
Sitra Achara, c'est l'autre côté. D'accord ? L'autre côté, ça veut dire celui qui n'est pas Kdusha. Comme on avait expliqué dans le chapitre 4 du Tanya, on avait expliqué que tout ce qui n'est pas Kdusha est lié à Sitra Achara. Sauf que, ce qui est Klipat Noga, par exemple les chips, c'est Klipat Noga. Si je vais utiliser l'énergie que vont me donner ces chips pour faire une mitzvah, il va quitter Sitra Achara pour partir vers la Kdusha. Mais il y a certaines choses qui ne peuvent jamais quitter Sitra Achara. Comme par exemple,
comment s'appelle ces
Klipat Noga. Voilà. C'est écrit dans l'iPhone ?
Ouais,
non, c'est pour ta qui, si tu veux.
Moi aussi, c'est pas écrit.
David, il a mis le doigt dessus.
Bon, David, il faut que tu nous serves un petit peu. Et l'Unishmat, Baba Salé. Et Rav Kadouri, ça lui laisse tes Shabbat aussi.
Les Shabbat.
Enfin, faut qu'on dise le Chaïm. C'est pour ça que Shabbat, vous avez remarqué, à Shabbat à Mincha, j'ai chanté « Vani Tefilati » avec l'air marocain. « Vani Tefil » Enfin, pour ceux qui étaient là.
Oui, rappelle-le-nous.
Tout le monde n'a pas capté, mais on a vu.
Tout est réfléchi.
Alors, il y avait des connaisseurs.
Oui, il y avait des connaisseurs, bien sûr. Des gens qui ont tout de suite compris. Alors, dans les mots, Veliot itron aor minachosher be'alot adam et nafsho elokit v'achinu tout v'ushia v'chol kochot aguf kulan l'ashem levado kanal barichut. Que qu'est-ce que, où va être le plaisir d'Akadosh Baruch Hu ? Le plaisir d'Akadosh Baruch Hu va être lorsque l'homme va montrer que dans l'obscurité, il va être capable de retrouver de la lumière. Et donc, comment il va faire ça ? Ça veut dire que l'homme va faire monter vers Akadosh Baruch Hu toute son énergie, d'accord ? Comme ce qu'on a expliqué longuement. On a expliqué ça longuement dans le chapitre 36 et 37. Bon. « Ki zetachlit ishtalchelu ta'olamot » Ça, c'est le but. Ça, c'est le but pour lequel tous les mondes, pour lequel il y a eu tout l'enchaînement des mondes. « Ishtalchelu » D'accord ? Ça, c'est le but. Raïm.
Attends, non, oui,
je crois qu'on doit
Amen.
À milieu de...
Bon, j'ai pensé qu'il y avait un sens profond dans la vie, à un moment que, parce qu'il dit la lumière de... qui est dans l'obscurité, c'est qu'on avait parlé une fois de la lumière noire.
Oui, oui. Non, ça... Eh, en fait, je ne rentre pas dedans. Oui, je sais.
Ça aurait pu être ça. Hein.
Parce que ça peut être ça, si. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Qui zé tarlit, ishtal shilut aolamot. Ça, c'est tout le but pour lequel tous les mondes ont été créés. Donc, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il nous dit Edmond Razaken ? Edmond Razaken est en train de nous dire ici, bien qu'on a l'impression, quand on nous a expliqué longuement à partir du chapitre 48, on nous a expliqué comment Akadosh Baruch Hu s'est tellement compressé pour arriver à notre monde, Tzimtzum. Alors on se dit, finalement, avec ce qui reste, est-ce que ça valait le coup ? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu avec tout ça ? Qu'est-ce qu'il dit Edmond Razaken ? Il dit qu'il zé tachrit ishtal shilut aolamot. Tout le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a fait l'enchaînement des mondes, ça veut dire qu'il a fait tout ce jeu qu'on a dit ici de contraction, c'était uniquement pour arriver à la conclusion finale, pour arriver à l'homme. Pour arriver à l'homme, et l'homme qui va devoir d'un côté repousser le mal, et d'un autre côté, grâce à ça, comprendre le divin. Alors, pourquoi on nous explique tout ça, hein ? Iné, que maï, ma pani. Maintenant, on va retourner à notre sujet qu'on a démarré dans le chapitre 46. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 46 ? Qui c'est qui peut me répéter l'exemple ? Avec le roi et le clochard. Qui c'est qui se rappelle ?
Le cerf dans ses bras.
Oui, alors c'est quoi l'exemple ? De A à Z. C'est quoi l'exemple ? Alors là, on va le comprendre.
Il est pauvre, il est en bas de l'échelle sociale, le roi qui est au sommet de la pyramide, on le prend, l'emmène dans son palais, dans le Saint des Saints, là où ses ministres n'y vont pas. S'assoit en face de lui.
Et il va le prendre dans ses bras.
Oui.
Très bien. Très bien. Donc on a expliqué que c'est évident que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Même si cette personne-là est insensible, hein, comme ces gens-là en général, c'est toujours insensible, parce que tellement ils ont souffert qu'ils deviennent extrêmement insensibles. Mais c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, il aura un sentiment de gratitude. Pourquoi ? Puisque « Kemaï mapanim, ken lève adam l'adam ». Ça, c'est la formule magique que nous dit le roi Salomon. Il nous dit que de la même manière que l'eau
reflète
le visage, ça veut dire que si tu fais une grimace, l'eau te fera une grimace. Si tu fais un sourire, l'eau te fera un sourire.
Tu sais qu'à ce propos, j'ai pas voulu en parler, mais puisque tu reviens dessus, ça, tu sais qu'il y a une science du comportement.
Oui.
Je ne sais plus comment ça s'appelle cette science-là, mais qui adopte le comportement de l'individu. Et grâce à cette adoption du comportement de l'individu, tu t'en fais ton ami. Par exemple, la personne est comme. On l'apprend souvent dans l'entreprise. Ouais. Par exemple, la personne est comme ça, alors tu recommences comme ça. Oui. Tu commences petit à petit à adopter son
mimétisme.
Hein,
mimétisme. Oui, mais...
Pour, tout ça pourquoi ?
Pour entrer dans sa psychologie et te faire apprécier de lui.
Dans son monde.
J'ai compris.
Et se faire apprécier de lui.
Pour être son miroir. Voilà,
c'était juste pour...
Azek.
L'empathie.
Hein ?
L'empathie. Non, c'est le principe, c'est qu'on aime ce qui nous ressemble.
Non mais là, bon, l'Admor Hazaken ici,
c'est
l'Admor Hazaken, ce qu'il a dit ici, c'est que Kemaï Mapanim Mapanim Kenlev Adam La Adam, ça veut dire que si tu souris à quelqu'un, il doit se forcer pour ne pas te sourire. Il peut ne pas te sourire, mais au fond de lui, quand tu lui souris sincèrement, il a envie de te sourire. Lorsque tu lui fais une grimace, lorsque tu lui montres que t'es pas bien, t'es pas gentil avec lui, il a envie de ne pas être gentil avec toi. C'est comme ça, c'est la nature de l'homme. C'est quelque chose qui est valable chez tout le monde. C'est quelque chose qui est valable même chez les animaux. Chez toute la nature. Kemaï mapanim mapanim, ken lève adam la adam. Alors qu'est-ce qu'on a expliqué ? Que c'est évident, donc que tu nous disais, que cette personne-là qui est en bas de l'échelle sociale, c'est sûr qu'à un certain moment, il va craquer, et il va se sentir redevable envers le roi. Il va avoir un sentiment. Lui qui était insensible, il va avoir un sentiment d'amour envers le roi. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait la même chose avec nous. Comment il a fait la même chose avec nous, Akadosh Baruch Hu ? On était en Égypte, il ne nous devait rien, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a fait sortir d'Égypte. Et il nous a donné la Torah, chose qu'il n'a pas donné à ses ministres. C'est qui les ministres d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ? C'est les Malachim, il leur a pas donné. Bon. Alors on a expliqué que le problème qu'on avait, c'était quoi ? Le problème qu'on avait, c'est qu'on ne connaît pas Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et la sortie d'Égypte, on avait deux problèmes. Premièrement, on ne connaît pas Dieu. Deuxièmement, on n'est pas conscient de ce que c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, je sais pas, moi, j'ai pas vécu la sortie d'Égypte. Alors on a expliqué que la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de constant. Si, par exemple, grâce à un cours de Torah, j'arrive à me sentir surélevé sur le monde pendant quelques instants, c'est une chance que Kadosh Baruch Hu m'a donnée, qu'il n'a pas donnée à tout le monde, cette chance-là, ça s'appelle sortie d'Égypte. Mais c'était pas assez clair pour nous, parce que, comme on l'a dit, on avait du mal à comprendre qui est Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de repères. Maintenant, on a mis des repères. Quels sont les repères qu'on a mis ? Les repères qu'on a placés, c'est qu'on a expliqué longuement comment Kadosh Baruch Hu, pour nous créer. On ne sait pas qui est Akadosh Baruch Hu, mais par contre, on sait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire pour nous créer. Je ne sais pas comment ça s'appelle en psychologie, ça. Quand je ne sais pas ce qu'est une personne, mais je sais ce qu'il a dû faire pour me créer.
La systémique.
La systémique.
On étudie l'ensemble par les relations qu'il a avec
autrui. Exactement. La systémique. Mahazak. Donc, j'ai étudié ce qu'Akadosh Baruch Hu. Donc, on a étudié le Tsimtsum d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les étapes par lesquelles Akadosh Baruch Hu a dû passer pour nous créer. Et grâce à ça, on a pu comprendre qu'on est vraiment petit face à Akadosh Baruch Hu. Et là, quand on a compris tout ça, on s'est dit, mais attends, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait tout ça? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Oui, Akadosh Baruch Hu a fait tout ça, parce que quand nous on va lui donner la soupe qui n'est pas bonne, ça c'est un grand plaisir à Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer comment on va se sentir redevable face à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est là qu'on va revenir à ce qu'on a commencé au chapitre 46. Veiné. Kemaim apanim apanim, l'apanim. De la même manière, donc on a dit que l'eau donne le visage, le sourire peut-être. Le visage qu'on lui donne, d'accord. Kemosh Akadosh Baruch Hu. De la même manière que Akadosh Baruch Hu kaviarol, inniarvesi lagitzdadin. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il a mis de côté, si on peut dire, derech machal, un exemple, et oro agadol abitzitachlit. Akadosh Baruch Hu pour nous créer. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué longuement la semaine dernière, la semaine d'avant. On a dit que si Akadosh Baruch Hu était resté illimité comme il était, le monde tel qu'il est, avec sa sensation d'indépendance, n'aurait jamais pu exister. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour nous donner une sensation d'indépendance, il a dû faire abstraction de soi. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le grand chidouche du Harizal, ça. Sur lequel il est en marloquette avec son maître le Ramak. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec lui. Le grand chidouche du Harizal, la grande nouveauté du Harizal, c'est que le Harizal dit que pour créer le monde, Akadosh Baruch Hu a dû faire abstraction de soi-même. Ça veut dire que normalement, il n'y a rien qui peut ne pas être annulé à Akadosh Baruch Hu. Normalement, c'est impossible que, même un instant, je me sens indépendant face à Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à ça, dit le Harizal, Akadosh Baruch Hu a dit kaviarol, si on peut dire, nous donner une sensation d'indépendance, ça veut dire qu'il a dû faire abstraction de soi, au moins par rapport aux créatures. Ça veut dire que nous, on aura l'impression que Dieu a fait abstraction de soi. Ça ne veut pas dire que réellement Dieu s'est séparé. Hein, je voyais ta question arriver.
D'accord. Subjectif.
Bien sûr, subjectif. Mais par rapport à nous, Dieu a fait, c'est-à-dire Dieu a fait un tzimtzum, d'accord. Dieu a fait une abstraction one way. Ça veut dire que par rapport aux créatures, d'accord, nous on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on est indépendant face à Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à cette conclusion, pour qu'un homme puisse penser, pour qu'une créature puisse penser même un seul instant qu'il est indépendant, même si je pense à un seul instant, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est abstrait. Non, c'est logique, non,
ouais.
On va chercher dans la route. Il n'y a pas de mots.
On dit qu'il a fait une abstraction.
Pourquoi il a fait une abstraction?
C'est comme lui-même. À la venue du Machia, c'est pas notre cœur qui va être circoncis.
Comment j'ai dit abstrainte? Attends une seconde, je vais voir le mot. Moi aussi, j'ai rien fait.
Il n'y a pas de...
Abstrainte.
Ce qu'il te dit, c'est que...
Abstrait. Abstraitement.
Non.
Regarde. Larousse. Abstraitement.
On dit pas quoi. Okay, on dit pas que le cœur...
Bon, peu importe.
C'est pas Hachem qui dit qu'il va circoncire notre cœur.
Oui, alors.
C'est pas la circoncision de notre cœur qu'on va identifier la présence divine.
Il n'y a
pas de, en soi, Hachem ne s'est pas contracté, c'est juste qu'il nous empêche de...
Une question, c'est ça le chidouche du Harizal. C'est pour ça qu'il dit le Harizal. Le Harizal nous dit la chose suivante, il nous dit que si une créature peut se sentir indépendante, même un seul instant, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, d'accord, a fait abstraction de soi. Parce que sinon... Non, il a fait abstraction de soi. Il a fait abstraction de soi par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il nous donne le sentiment, la sensation qu'il a fait abstraction de soi. Parce que sinon... Jamais on n'aurait pu avoir la sensation d'indépendance, c'est impossible. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est comme le roi, d'accord. Lorsque le roi a pris la personne qui est en bas de l'échelle sociale et qu'il l'a amené chez lui à la maison, là tu vois bien comment le roi a fait abstraction de soi. Parce que le roi, il n'a pas besoin de ce gars-là, et il est sale, il est répugnant, ça ne l'intéresse pas, il va le prendre tel qu'il est, il va le faire rentrer chez lui. Il a fait abstraction de soi, il a fait abstraction de sa manière de voir les choses. Akadosh Baruch Hu, pour nous donner la possibilité d'avoir une pseudo-indépendance, pour nous donner la possibilité
d'avoir un libre arbitre,
Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi. Ça, c'est le grand chidouche du Harizal. Et ça, en vérité, c'est la finalité de la Machloket qu'on avait dans le chapitre 48, entre le Ramak et le... pour expliquer le concept du Tzimtzum. Le Harizal pense qu'Akadosh Baruch Hu a fait réellement abstraction de soi. Il y a eu une rupture. C'est ça le concept de la rupture. C'est-à-dire que Dieu a fait abstraction de soi. Tout ça pour qui ? Pourquoi ? Pour qui Akadosh Baruch Hu a fait tout ça ? Pour qui Akadosh Baruch Hu a fait tout ça ? Veganzo veistiro begimel minet insumi shonim. Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, si on peut dire. Akadosh Baruch Hu a caché et voilé sa lumière. Vous voyez bien qu'attention, vous voyez bien les termes qu'il dit ici. Il ne dit pas enlever sa lumière, puisqu'en vérité, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas enlevé. C'est seulement, la sensation qu'il nous donne. D'accord ? Begimel minet insumi shonim. Par trois catégories de tinsumim différents. Les trois catégories, j'expliquais tout à l'heure. De Atzilut à Bria, de Bria à Yetira, de Yetira à Asiya. Donc on a dit du spirituel à l'idée, de l'idée à la structure, et de la structure à l'action. D'accord ? Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure dans la construction du livre. Akadosh, tout ça, c'est des contractions à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on matérialise, et quand on matérialise, on perd à chaque fois de la lueur, de la lumière, de la beauté de la chose, obligatoirement. Pour qui Akadosh Baruch Hu a fait tout ça ? Ve'akol bishvil avat adam atarton le'aloto l'Hashem. Akadosh Baruch Hu a fait tout ça, toutes ces contractions. Pour qui il a fait tout ça ? Bishvil avat adam atarton, parce que Akadosh Baruch Hu aime l'homme qui est en bas, le'aloto l'Hashem. Akadosh Baruch Hu veut nous donner la possibilité, d'accord, de remonter vers lui. En d'autres termes, ça veut dire quoi de remonter vers lui ? Il veut nous donner la possibilité qu'on apprécie la lumière face à l'obscurité. C'est un grand ridouche qu'il dit là de Morazaken. Ça veut dire que la contraction en soi n'est pas un but. C'est comme si, imaginez-vous, j'allume une bougie ici. Et je vois que vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire cette bougie.
J'éteins la lumière.
Qu'est-ce que je fais ? J'éteins la lumière. Pourquoi j'éteins la lumière ? Le fait que j'éteins la lumière, ce n'est pas un but en soi. Pourquoi j'éteins la lumière ? J'ai éteint la lumière pour qu'on puisse mieux apprécier la lumière de la bougie. De la même manière. Si Akadosh Baruch Hu a fait abstraction tellement que je me sois la rupture et Atzilut, Bria, Yetira, Asiya, pourquoi il a fait tout ça ? Pourquoi il a éteint la lumière ? Il a éteint la lumière pour que l'homme qui est au bout du qui est donc le dernier maillon soit capable d'apprécier la lumière d'Akadosh Baruch Hu et progressivement remonter, comme dans le livre. D'accord ? C'est pour ça que je pense que l'exemple du livre était un très bon exemple. Si j'ai une lueur dans l'exemple du livre, donc j'ai une idée d'un livre. Je vais transmettre cette idée telle quelle à quelqu'un d'autre. Il ne va pas la comprendre. Il ne comprendra pas tout ce que j'ai dans ma tête. Par contre, quand je vais l'écrire dans un support papier, donc je vais descendre, d'accord ? Donc je vais aller de idée, structure, mise en place. Je vais permettre, parce que la personne qui va lire mon livre qui a été mise en place, il pourra lui aussi remonter les étapes. D'accord ? Comme progressivement, il va comprendre la structure, et après, il comprendra l'idée qu'il y a derrière. C'est comme par exemple dans le Tanya. Dans le Tanya, quand on étudie le Tanya, par exemple, voilà, quand j'étudie le Tanya, tout d'abord, je vais essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Après, je vais essayer de comprendre la structure. Et c'est seulement après que je pourrai essayer de comprendre l'idée qu'il y a derrière. Sinon, ça ne marche pas.
Donc la bougie, d'accord, c'est le livre.
Exactement. C'est quoi la bougie ? La bougie, c'est le livre. C'est le fait que Kadosh Baruch Hu est descendu. Pourquoi il est descendu ? Le fait qu'il a éteint la lumière, c'est pas un but en soi. Pourquoi il a éteint la lumière ? Il a éteint la lumière parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que l'homme qui est au résultat final et la possibilité d'apprécier la lumière. Donc c'est pour ça qu'il a mis de l'obscurité et qu'il a mis des tas de choses qui lui cassent les pieds, pour que l'homme est capable d'apprécier les forces qu'il a. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait tout ça ? Pourquoi il s'est pris la tête ? Pourquoi il est parti prendre des clochards ? Pourquoi il sent mauvais ? Il donne une soupe qui est froide, qui est pas bonne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait tout ça ? Parce qu'il nous aime. Et alors ? Qui a ava de reketabasa ? La Gemara Baba Metzia raconte la chose suivante. C'est une histoire qui est très intéressante. Marav Mutiel raconte que une fois, il y a une matronita. Matronita, ça veut dire une dame, une princesse, qui est venue voir Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, d'accord ? Non, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Elle est venue les voir, elle leur a posé, ils étaient très gros, ils étaient vraiment spécialement gros, obèses. Elle leur a posé la question, elle leur a dit, je pense pas que vos enfants sont vraiment à vous. Ça leur a dit. Elle dit, parce que, gros comme vous êtes, je ne pense pas que vous avez pu avoir des relations avec votre femme. C'est ça que Maral raconte. Et bon, il y a une discussion qui a suivi. À la fin, ils lui ont expliqué la chose suivante. Les deux, ils lui ont expliqué. Ils lui ont dit que, Ahava Dochaket Abasa. Ils lui ont dit que, sachez que, même si on a l'air très gros et que vous n'arrivez pas à comprendre comment c'est possible qu'on ait pu avoir des relations avec notre femme, comment c'est possible qu'on ait pu avoir des enfants, sachez que l'amour est capable de rapetissir la chair. Donc, nos enfants viennent de nous. Là-bas, le marché, il explique, je me suis dit, bon, on peut bien comprendre le sens simple, mais pourquoi la Gemara nous le raconte cette histoire, là, ça nous change. Obèse, la vave de Reket Abbas. Oui, d'accord, c'est un peu, ouais. C'est un peu spécial. Faire un peu le Chaïma. Okay. Du Monsieur Smadja.
Il n'a pas bu du tout, du tout. Il prend du lait parce que tu lui as raconté l'histoire du gros, là. C'est pour ça qu'il prend du lait. Comment il prend du rouge?
Alors, qu'est-ce qu'explique là-bas le marcha, hein? D'accord. Donc, moi, là, c'est le Morazaken explique ça. Donc, le Morazaken pousse ça encore un peu plus loin. Lui, ça veut dire quoi? Ahava de Reket Abbasa. Ahava de Reket Abbasa, ça veut dire que quand on.
Non, lui, il va prendre comme ça. Lui.
Le mot rentre avec.
Ahava de Reket Abbasa, c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit que Ahava de Reket Abbasar, ça veut dire que l'amour est capable de changer des choses. Que même si normalement, techniquement, c'est pas faisable, techniquement, c'est pas possible qu'il ait eu des relations avec sa femme, techniquement, c'est pas possible que les enfants viennent de lui. Mais ils lui ont expliqué que Ahava de Reket Abbasar, quand on aime quelqu'un, l'amour est capable de changer des choses. Alors, de la même manière, si c'est valable matériellement, à plus forte raison que c'est valable spirituellement. Que Akadosh Baruch Hu, tellement il nous aime, et ben même si normalement il n'y a pas de raison, c'est pas normal qu'il doit se contracter, comme il nous aime, comme il aime les Neshamot Israël, Ahava de Reket Abbasar et Kadosh Baruch Hu s'est contracté, a fait abstraction de soi, il s'est changé. Pour qui il a fait ça? Parce qu'il nous aime. Al Achat Kama Vekama, Berifle Riflaim. A plus forte raison, Berifle Riflaim Leenket, si on réfléchit, d'accord, à plus forte raison, qui Raoui la Adam Gamken Lanyar Velazav Klachan, je dis attends, à Kadosh Baruch Hu avec tout ce qu'il avait. Avec tout ce qu'il avait, ça veut dire un Kadosh Baruch Hu, il a besoin de rien, ni des malachim, ni de rien du tout. Et tu m'as expliqué que toutes les contractions qu'il a fait, ça, même les malachim, le Gan Eden, tout ça, pour qui il a fait tout ça? Pour nous. Pour qu'au bout du compte, nous qui sommes à la fin, le dernier maillon, on va être capable de dire, ah, regarde la bougie, comment elle est belle. C'est-à-dire un Kadosh Baruch Hu fait tellement abstraction de soi, comme on a expliqué brillamment dans les cinq derniers cours, comme un Kadosh Baruch Hu, la rupture, Réatil, ou Débria, Yetira, Sia, à tel point qu'à la fin, on se sentit en trop. On dit, mais attends... Ça va, pourquoi ça dérange Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, il a fait ça parce qu'il nous aime. Akadosh Baruch Hu a fait tellement d'efforts pour nous. Par rapport aux efforts qu'Akadosh Baruch Hu a fait, nos efforts qu'on nous demande à nous, c'est rien par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. C'est comme le sentiment que le clochard va avoir quand il est dans le palais du roi. Il dit, mais attends, le roi, il a fait tellement d'efforts, quand il réfléchit. Mais moi, le petit sentiment que je vais avoir d'amour envers le roi, c'est rien par rapport à ce qu'il m'a fait. C'est évident que je lui dois ça. C'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu, il a tellement fait abstraction de soi, que c'est évident que nous aussi, Raoul la Adam, c'est évident à plus forte raison que l'homme devrait gamken l'aniar velazov kolacharlo, que l'homme doit laisser et abandonner tout ce qu'il a. On a une petite truc, un petit intérêt matériel, mais il ne fait pas de bazar. Tout ce qu'on est attaché. Tout ce qu'on a attaché, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a attaché, d'accord, donc avec notre corps, et même avec notre âme ici, ça veut dire tous les liens sociaux qu'on a, d'accord, toutes les contraintes sociales qui font, je découvre, j'ai une contrainte sociale, je ne peux pas, etc. Mais c'est rien ces contraintes qu'on a. Si on réfléchit, ces contraintes qu'on a, l'effort qu'on doit fournir, c'est pas la fin du monde, l'effort qu'on doit fournir pour surmonter ces contraintes sociales, c'est rien par rapport à l'abstraction de soi que Kadosh Baruch Hu a dû faire, c'est incomparable. Comme on a vu dans les cinq derniers cours, on a vu clairement comment Kadosh Baruch Hu s'est contracté. On a expliqué comment l'infini et le fini ne sont pas comparables, peuvent pas être cause à effet. On a expliqué comment on n'a rien à voir avec Kadosh Baruch Hu, qu'il ne nous doit rien, qu'il n'a pas besoin de nous. On a expliqué longuement. Et on a dit pourquoi il nous a créé. Pourquoi il nous a créé la Torah? Parce qu'il nous aime. Le petit effort que nous on va faire par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est rien. Donc c'est évident qu'on doit laisser tout ce qu'on a. Ou les afkirakol, et tout abandonné, relaisser, d'accord, bijvil délaissé, bijvil les dof kaboïd barer, pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit, ahava de Reket Abbasar. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'amour a la possibilité de changer la nature. C'est évident qu'on doit ce minimum à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le clochard, à un certain moment, il dit, mais attends, je suis sûr qu'au moins un sentiment d'amour je dois avoir. C'est rien par rapport aux efforts que le roi a fait. Velo Yeshu Monea Mibait Mikhoutz. Il faut qu'il n'y ait rien qui l'empêche, rien qui nous dérange, c'est pas normal. C'est-à-dire les obstacles qu'on a, c'est rien du tout. Il ne faut pas avoir ces obstacles, logouf, ni un obstacle lié au corps. Velo Nefesh, ni un obstacle lié à l'âme. Velo Mammon, ni un obstacle lié à l'argent. Velo Isha Ubanim. et ni un obstacle lié à la femme et aux enfants.
Ah.
C'est quoi l'obstacle lié à la femme et aux enfants? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que... Ah bon, bien sûr, on a, a priori, bon, le chapitre 49...
On n'a pas tout compris. Là.
Ah oui,
il parle du
écoutez bien, écoutez bien. Le chapitre 48, le chapitre 49, il vient à la suite des... Il y a eu 48 chapitres avant. Ça veut dire que... On n'a pas utilisé directement le 41e chapitre. On est passé d'abord par 48 chapitres. On sait très bien que qu'est-ce qu'a expliqué le Morazakan dans les 48 chapitres. Il a expliqué longuement que l'homme ne doit pas se séparer du monde, au contraire, il doit être intégré dans le monde. Donc c'est évident qu'il ne faut pas mal comprendre ce que le Morazakan veut dire ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, le Morazakan, quand il nous dit ni la femme et les enfants, ni le corps, ni l'âme? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on quitte le social? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être social? Pas du tout. Écoutez bien. Ça veut dire, ce que le Morazakan veut dire, c'est très fort, c'est un point qui est très fort. C'est qu'il faut savoir. Que, de manière générale, si on réfléchit, même l'amour qu'on a envers sa femme et ses enfants, et envers l'argent, envers tout ce qu'on peut penser, si on réfléchit bien, c'est un amour qui est lié à notre ego. La preuve, dès que ça touche à notre ego, on a tout de suite envie de le lâcher.
Pas les enfants.
D'accord ? D'accord. Pourquoi pas les enfants ? Parce que les enfants, ton ego, il te dit, c'est toi qui les as fait. Donc, pourquoi tu ne veux pas aller lâcher les enfants ? D'accord ? Parce que ça fait partie de ton ego. Tu te dis, c'est moi qui les... C'est mes enfants.
Non, c'est pas
d'accord. Deux secondes.
Tu sens que t'es une
mission. Très bien. Attends, deux secondes. Je dis à la base.
D'accord.
On parle pas du tout. D'accord. À la base, pourquoi une personne aime ses enfants? Parce qu'il dit, parce que c'est mes enfants. C'est moi qui leur a donné naissance, c'est ma responsabilité, c'est moi, c'est mon ego. D'accord. Ça veut dire qu'on oublie que c'est une mission d'Akadosh Baruch Hu qu'on a. On oublie que si on s'est marié, d'accord, si on s'est marié... Il va venir après un pasouk. Il va venir après un pasouk. La Gemara a dit que un verset qu'on dit tous les matins, Psouké des Imra, chapitre 33 de Tehilim. C'est écrit Ki ou Amar Vayehi ou Tsiva Vayamod. Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre. Vayehi, et ça a existé. Ou Tsiva Vayamod, et c'est lui qui a donné l'ordre, Vayamod, et ça a tenu. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas hein? La Gemara là-bas dans le traité Shabbat et les choses suivantes. On a dit Ki ou Amar Vayehi. Quand on dit, tu me dis que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre pour que ça existe, de qui on parle? On parle de l'amour d'un homme envers sa femme.
Ah ouais.
Comme Rachid explique, il dit normalement c'est incompréhensible. Comment c'est possible qu'un homme il aime une femme alors qu'elle a une nature complètement contraire de la sienne? C'est impossible. Logiquement, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un homme aime une femme. Alors qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Qui ou Amar Vayei? C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné l'ordre et c'est pour ça que l'amour existe. C'est un premier point. Deuxième point, Utsiva Vayamod. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné l'ordre. Vayamod explique la Gemara, Elubanim, comme on verra après dans la suite du chapitre. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la règle qu'un homme aime ses enfants. Normalement, un homme il doit être tellement égoïste que même ses enfants il ne doit pas aimer. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé une règle. Qu'est-ce que veut dire Admorazaken ici? Admorazaken veut dire que quand on réfléchit réellement, quand on réfléchit sincèrement, très rapidement on peut arriver à la conclusion que tout ce qu'on croit faire de bien, ça veut dire aimer sa femme, aimer ses enfants, faire pour sa femme, faire pour ses enfants. En vérité, il est fort possible que c'est lié à notre ego. La preuve, dès que ça nous dérange, ça y est, ça me casse les pieds. Donc ça veut dire que c'est lié à mon ego. C'est pas une mission que j'ai. C'est pour ça que nous dit l'Admorazaken, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'Afkir Akol, que si Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, moi aussi je dois faire abstraction de moi. Ça veut dire quoi abstraction de soi? Abstraction de soi, ça veut dire que l'intérêt principal de ma vie doit être faire la mission qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Pas à mon ego, pas à faire plaisir à mon ego, pas à faire plaisir à mes volontés animales. Parce qu'on est des animaux, nous aussi, on a un moteur d'animal. D'accord ? On a une âme, mais on a un moteur d'animal. Il faut constamment se rappeler, qu'est-ce que ça veut dire faire abstraction de soi ? Ça veut dire se rappeler constamment que si on est ici, c'est parce qu'on a une mission. On n'est pas là, on n'est pas ici comme des animaux pour être là et profiter et essayer donc d'augmenter notre ego. C'est pas pour ça qu'on est dans ce monde. Qui ou Amar Vayé ou Tsila Vayamod, on est là pour faire une mission d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle faire abstraction de soi. Faire abstraction de soi, ça veut dire se rappeler constamment qu'on a une mission. Et chaque fois qu'il y a un obstacle, pas je me dis l'obstacle me dérange. Non, c'est pas comme ça que je réfléchis. Je dis l'obstacle ne me laisse pas accomplir la mission d'Akadosh Baruch Hu. Ça change tout. Chaque fois qu'il y a un problème, je dis pas le problème me dérange. Je dis non, à cause du problème, je n'arrive pas à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça change tout quand on réfléchit comme ça. Quand on met de côté notre ego, alors bon, après il faut expliquer comment on arrive à ça. D'accord ? Enfin, on va expliquer, parce que le chapitre 41, c'est pas fini, il est encore long. Mais ce que l'Admorazaken veut nous dire, c'est l'abstraction de soi. C'est quoi le kemaim apanim kanev adam la dame? On a dit que Dieu, puisqu'il nous fait un sourire, on doit lui renvoyer un sourire. C'est quoi le sourire que Dieu nous a envoyé? C'est...
la Torah.
Non, mais c'est quoi le sourire que Dieu nous a envoyé?
La contraction.
L'abstraction de soi. Qu'est-ce qu'on doit rendre à Kadosh Baruch Hu? L'abstraction de nous-mêmes. C'est ça ce qu'on doit renvoyer à Kadosh Baruch Hu. Si on a compris ce principe-là, on a tout compris. C'est pour ça qu'ici, il parle de choses comme l'argent, comme la femme, les enfants, etc. Parce que c'est dans ça que ça s'exprime. D'accord ? Il y a des gens qui vont être capables de faire toutes les misères que vous voulez, mais dans tout ce qui est lié à la vie sociale, c'est les plus grands égoïstes qui peuvent exister. Il a de Morozaken, tu n'as rien compris dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça veut dire que ton étude de la Torah est liée à ton ego. Ça veut dire que c'est un kiff pour toi. C'est un kiff de faire les mitzvot. C'est un kiff de faire la Torah. Tu n'as pas fait abstraction de soi. Oui ? Ah, d'accord ? David, il faut dire le Chaïm. Vous comprenez ce que veut dire de Mourazaken ici ? Il veut dire ici qu'on peut avoir un juif qui est shomer, Torah et mitzvot, qui fait Shabbat, qui fait tout ce que vous voulez, mais qui fait ça, un religieux à 100%, il fait toutes les mitzvot, il ne fait pas une seule avéra, mais il fait ça pour son ego. C'est ça pour soi, parce que tu te sens bien. Tu te sens bien quand tu fais une mitzvah. Tu te sens bien quand tu dis la Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit là de Mourazaken ? Qu'est-ce qu'on attend de ce clochard, qui est nous-mêmes ? De ce clochard, on nous dit, mais je ne comprends pas, avec tout ce que Kadosh Baruch Hu a donné, tout ce que Kadosh Baruch Hu s'est contracté. Je crois que Kadosh Baruch Hu s'est contracté uniquement pour que tu sois là en train de te sentir, ah, j'ai bien compris, je suis bien pour kiffer. Tu peux pas au moins faire un peu abstraction de soi, de toi. C'est quoi faire abstraction de soi ? Faire abstraction de soi, ça veut dire s'habituer à oublier son ego. C'est peut-être très difficile, donc on va le faire par palier, on va expliquer comment, pourquoi, où, etc. Mais le concept, d'accord ? Le concept, c'est constamment faire abstraction de son ego. C'est valable dans la vie de tous les jours, c'est valable dans la Torah. Et quand on fait ça, ça c'est le kemaim apanim kenev adam la adam. Là on montre qu'on a compris les règles du jeu. Là on montre qu'on a compris ce que l'Arizal voulait dire. Le Arizal a dit qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer ce monde, il a dû passer par une abstraction de soi-même. Quand je montre à Kadosh Baruch Hu que je fais abstraction de moi-même, chacun à son niveau, là je montre à Kadosh Baruch Hu, je dis tu as fait un effort, mais cet effort vaut pour quelque chose. Tu as fait un effort pour que je puisse comprendre la lumière de la bougie, tu as éteint la lumière pour que je puisse voir la lumière de la bougie, là je montre à Kadosh Baruch Hu que j'ai compris. Mais si je ne fais pas abstraction de moi, j'ai rien compris. Bazé Yuvan.
Faut faire attention, le Yitzhara il peut se piéger avec ça.
Bien sûr, c'est le piège numéro 1 du Yitzhara.
C'est pour ça l'état d'esprit, il faut savoir dans
le piège numéro 1 du Yetzirah, c'est lorsqu'il nous rentre l'ego dans la Torah. C'est le plus grand obstacle.
L'ego, il est partout.
D'accord ? Bien sûr qu'il est partout, c'est sûr qu'il est partout.
Inconsciemment, on fait des choses...
Lorsqu'il nous rentre l'ego dans la Torah.
On a un intérêt quelconque.
Tu comprends ? Lorsque, par exemple, ta femme va te demander, elle va te dire ce soir, est-ce que tu peux ne pas aller au cours ?
Ah.
Ah. D'accord ? Est-ce que tu peux ne pas aller au cours ce soir ?
Oui,
qu'est-ce qui va se passer dans ma tête à ce moment-là ?
Alors,
ce soir, j'ai besoin de toi, exceptionnellement. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi, elle sait très bien que tu dois aller à un cours de Torah. C'est.
Admettons,
elle dit,
peut-être qu'elle
sait.
Elle va profiter.
Si en général, elle te dit rien, ouais, si en général, elle accepte, si en général, elle t'encourage à aller, elle s'arrange pour que le repas est prêt quand il est là, que les enfants vont dormir, etc. Ça veut dire qu'elle t'encourage quelque part, même si tu ne le dis pas explicitement. Elle t'encourage à aller au cours. Et un jour, elle te dit, ce soir, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête ?
Bah, t'as pas le choix.
D'accord ? Ça dépend. Si je... Alors ça dépend, c'est pour ça que le calcul doit être là. Il faut faire un calcul de manière, d'accord, désintéressée. C'est très difficile. On va donner des techniques après, c'est très difficile. Mais il faut s'habituer à faire un calcul de manière désintéressée. Ça veut dire ne pas réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Réfléchir qu'est-ce que Dieu attend de moi.
Voilà.
C'est ça la question.
Alors
qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Bon, après chacun, il connaît sa femme, il se connaît. Moi, je n'ai pas de réponse.
Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas évident du tout.
Ça veut dire que le calcul que je dois faire, c'est pas... Bon, revenez la semaine prochaine. Hein.
même Shalom Bali, c'est un interprète.
Ouais,
c'est
sûr
de dire qu'est-ce que c'est. Tu dis ça hier matin.
Oui.
Hier matin.
Même Shalom Bali, c'est un interprète. Et peut-être que c'est Sarah...
Hier matin.
Le Shalom Bali, pour que tu y ailles pas.
Ce matin, tu pas court.
Si.
Tu n'étais pas là.
Si, j'étais là. Je suis venu, il fait court.
C'est qui, c'est ton père, là? Je sais pas.
Pourquoi ?
Il me semblait que tu n'étais pas là hier matin.
Hier matin ? Oui, non, je devais pas venir au début, après je suis venu. Non, mais j'étais fatigué, j'ai pas dit à ma femme.
Non, mais j'ai pas.
Alors, après je suis venu.
Oui, tu es venu.
Ah oui, toi,
t'es
venu.
Bon.
Alors, toi, t'es venu à 9h30, donc t'as pas vu tout ça.
Non, j'ai pas vu ça.
Alors, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il nous dit l'Admour Hazaken ? Qu'est-ce qu'il dit l'Admour Hazaken ? L'Admour Hazaken est en train de nous dire ici que... puisque Akadosh, c'est-à-dire en vérité, quel est le message? C'est ça ce que Rabbi Akiva a dit, c'est ça ce qu'Hillel a dit. Lorsqu'on lui a dit, apprenez-nous la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Ve'afta le'reacha kamocha. Mets l'ego de côté. Une fois que tu as mis l'ego de côté, tu as, ça c'est le principe numéro un de la Torah. Ça c'est le cœur de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Zeklal gadol batorah. Ou bien comme Hillel a dit, zeukol la Torah kula. Toute la Torah est basée sur ça. Pourquoi tu l'aurais basé sur ça? Le marchand pose la question, il dit, mais attends, je veux bien que tu me dises que Avat Israël, c'est la base de toutes les mitzvot envers un homme et son ami. Mais en quoi tu me dis que Ve'aftal et Rakamora, que l'amour du prochain, hein, c'est la base de toutes les mitzvot entre l'homme et Dieu? Quel rapport entre l'amour du prochain et la mitzvot de la souka? Quel rapport entre l'amour du prochain et les tefilines? Qu'est-ce que le marchand? Il dit, parce que le cœur qui est derrière toutes les mitzvot, c'est quoi? C'est le fait que l'homme doit faire abstraction de soi.
Donc en fait, il est à l'image de Dieu.
D'accord, exactement. On te demande de la même manière que Dieu a fait abstraction de soi, mais c'est une abstraction énorme qu'Akadosh Baruch Hu a fait. L'abstraction qu'on nous demande à nous, c'est rien. C'est comme dans l'exemple du roi, par rapport à tous les efforts que le roi a fait, le fait qu'on demande au clochard d'avoir juste un petit sentiment d'amour envers le roi, de lui servir une soupe froide qui sent pas bon, c'est rien par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Le principe numéro un, c'est virer l'ego.
On sait que Hachem a la notion d'effort. Il l'a fait parce qu'il a compris qu'il voulait faire
l'effort. On n'a pas parlé d'effort. On n'a pas parlé d'effort du tout.
Nous, ça demande un effort.
Bien sûr. Comment on est construit. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que puisque Kadosh Baruch Hu l'a fait, donc naturellement, on doit vouloir le faire. Et puisque Kadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, ouais, maintenant qu'on comprend ça, maintenant qu'on voit clairement que Kadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, la prochaine fois qu'on va te dire fais quelque chose pour Kadosh Baruch Hu, on va mieux comprendre. On va dire, attends, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, il a fait abstraction énormément de soi pour nous.
Je prends à relativiser.
Exactement, il apprend à relativiser. Je dis, l'effort que je veux faire, finalement, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est...
Tu vas dire, attends, j'ai pas envie, tu vas pas te casser la tête. Tu vas même pas penser ego ou pas ego, j'ai pas envie.
Donc, j'ai pas envie, c'est quoi j'ai?
Tu vas oublier de réfléchir.
Attends, c'est quoi j'ai? C'est l'ego.
C'est l'ego.
Tout.
C'est ça.
Oui. Justement, faire abstraction de l'ego. Normalement, quand il te dit l'ego, l'ego il te dit comment tu vas aimer l'autre comme toi, c'est pas possible.
Non, au contraire.
D'accord? Tu veux au contraire.
L'ego te dit tu t'aimes.
Voilà.
Et grâce à ça, tu vas aimer l'autre.
Voilà. Qu'est-ce que te dit? Pas du tout. Pas du tout. La Torah te dit pas du tout. L'ego il te dit tu t'aimes à toi. D'accord? Et si pour t'aimer à toi, tu dois passer par aimer l'autre, d'accord? Alors dans ce cas-là, tu vas aimer l'autre. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme par exemple, bon, c'est l'Avdil, il n'y a que chez les Goyim, il n'y a pas chez les Juifs. Hein, d'accord. C'est comme chez l'Avdil, on voit des gens, hein, d'accord. Hein, on voit des gens hein, qui vont avoir une, je sais pas comment dire, une maîtresse. C'est-à-dire qu'il va avoir une, chez les Goyim, ça. Hachem Ishmor, d'accord. Ils vont aller avec une autre femme.
C'est quoi que tu veux dire?
D'accord. Ils vont aller avec une autre femme. D'accord. Il y a des gens comme ça, ça existe comme ça, il y a des choses... à l'époque de Sdom, ça existait, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des gens qui vont aller avec une autre femme. D'accord. Et on te dit, hein, tu vas poser la question, tu vas dire, mais pourquoi tu vas avec une autre femme? Tu as une femme? Il va dire, mais je l'aime. Est-ce que c'est vrai qu'il aime? Oui, c'est vrai qu'il aime. Tu vas lui demander vraiment, au fond de lui. L'autre femme aussi, il l'aime. C'est vrai qu'il aime, il s'aime. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, c'est pas un vrai amour, c'est un amour égoïste. Pourquoi c'est un amour égoïste? Parce que c'est un amour qui m'intéresse. Dès que ça m'intéresse plus, je le jette. Donc c'est un amour égoïste. C'est-à-dire qu'en vérité, pour moi, c'est un kiff d'aimer. Donc je vais l'aimer, je vais réellement l'aimer, je vais lui montrer que je vais l'aimer, les bouquets de fleurs et tout ce que tu veux. Mais c'est un amour égoïste, même si je m'implique. Je m'implique pour entrer dans les règles du jeu, parce que je sais que pour recevoir, il faut donner. Mais en vérité, au bout du compte, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans ma tête tordue? C'est un amour égoïste. Et c'est ça qu'il faut quitter. C'est ça qu'il dit ici, Loïcha ou Banim. Non, c'est ça ce qu'il faut quitter.
Il y en a qui ont
quand par exemple, on a des problèmes de Shalom Bayit, à chaque fois il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a fait. Il faut réfléchir qu'est-ce que Dieu pense de la situation. C'est très dur. Je ne dis pas que c'est facile. L'Admor HaZaken va lui-même poser la question après. Il va dire, je vais vous lire dans les mots, parce que c'était la question, il la pose très bien. Ah, c'est un gros sujet, ça, c'est un sujet énorme.
La polygamie est autorisée dans le judaïsme, il n'y a pas longtemps.
Ça ne change pas. D'accord, deux secondes, je vous dis dans les mots, la question qu'il va poser.
Il y a une femme qui va tromper ses
femmes,
c'est vraiment, il a un problème. Hein.
Deux secondes, je vous dis dans les mots.
Bah, c'est donc qu'il a une âme animale.
C'est R qui a guillé.
L'amour est aveugle. Le mariage,
non, mais bon.
Voilà. Regardez. La question qu'il va poser après, bon, on l'aura la semaine prochaine. V'er yavo adam achumri le midazo. Comment l'homme qui est matériel peut, qui est matérialiste peut arriver à cette mida-là? Impossible. C'est la question qu'on se pose tous. Cette mida de virer son ego, c'est impossible. Tu me dis, comment tu veux que je fasse abstraction de moi? Si on réfléchit, tout tourne autour de l'ego. Et je vais vous dire plus que ça. Très souvent, même les gens qui font teshuva, même nous, pourquoi ils font teshuva? Parce qu'ils sont pas bien. Donc ça tourne autour de l'ego. Tout tourne autour de l'ego. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que puisque Kadosh Baruch Hu a fait abstraction le soir, alors nous aussi on doit apprendre à faire abstraction le soir.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
D'accord. Non, ce qu'il veut dire, on a compris.
C'est le sujet, non.
Comment l'accomplir, ça on n'a pas encore compris.
Mais Dieu n'a
en tout cas, là maintenant, on commence à voir la structure de Mourazaken, on commence à voir le puzzle.
Mais Dieu n'a pas
le puzzle, d'accord. On commence à voir ce qu'il veut dire là de Mourazaken. Il a voulu nous dire de la même manière que, c'est-à-dire pendant trois chapitres, il nous a clairement montré longuement comment Dieu fait abstraction de soi. Et maintenant, il nous jette la balle, gars, pac. Avec tous les efforts que Kadosh Baruch Hu fait, maintenant on va te demander à toi de faire abstraction de toi. Puisque Kemaï n'a pas ni panim, qu'elle lève à Adam la Adam.
C'est
vraiment un problème.
C'est un jeu de mots entre le Lego et...
Ah oui, d'accord.
Lego et...
C'est un problème, c'est dit, parce que ça voudrait dire que si celui qui vient au cours de Tania, par exemple, il aime le cours de Tania, ça veut dire qu'il peut-être qu'il ne doit pas venir.
Qui défie les yeux, qui défie le regard.
Il doit continuer à venir.
C'est difficile.
Il doit continuer à venir, parce que je considère que la lumière de la Torah va lui apprendre à réfléchir.
Même le Lishma.
D'accord. Mitar sur le Lishma, bah Lishma. Tu as raison.
Attention, lundi soir, par exemple, on a plusieurs raisons.
Tu as raison.
On a plusieurs choix,
c'est pour ça que le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il disait? Le Baal Shem Tov disait que Akadosh Baruch Hu est plus présent chez les juifs simples qui sont en train de lire Tehilim avec soumission que chez les Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, quand ils étudient, ils kiffent.
Alors,
c'est un kiff. Alors que les gens simples qui vont venir lire Tehilim à la synagogue ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ça leur casse les pieds. Ils doivent faire impression lui-même pour venir. Et qu'est-ce qu'il disait le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il disait au Talmidei Chachamim, si vous voulez avoir le même niveau, la même approche, si vous voulez vous sentir proche d'Akadosh Baruch comme ces juifs simples-là, il faut casser votre ego. Il faut vous rappeler constamment que vous faites ça pour Akadosh Baruch. Il faut vous annuler constamment, rappeler qu'on fait ça pour Akadosh Baruch. Et là, peut-être, vous sentirez ce que les juifs simples vont sentir.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore des juifs simples?
Bien sûr.
Ah, parce que j'ai fait comprendre que non.
Beaucoup plus que tu ne le crois.
Non, j'ai fait comprendre que non. À l'époque, attends, ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'à l'époque,
il y a plus d'analphabètes aujourd'hui.
Non, c'était même pas, c'était des gens, malgré tout ce que tu pouvais leur dire, ils comprenaient pas. D'accord. Aujourd'hui, ce que tu appelles toi un juif simple, j'appelle ça un feignant, moi.
Pas du tout.
Bah oui.
Non, c'est grave. Un juif simple, c'est
un Tunisien.
J'appelle ça un Tunisien.
Je peux te garantir. Jacob, je peux te garantir. Jacob, je peux te garantir que des fois, je donne des cours. D'accord. Tu entends, Jacob? Écoute, je peux te garantir que des fois, je donne des cours et je vois des gens en face de moi. Je peux te garantir qu'ils n'ont pas compris un mot de ce que j'ai dit.
Ouais, mais là, on a compris.
Oui, ça c'est vrai.
Je peux te garantir. Hein. Ça veut dire qu'il te pose une question.
Je peux témoigner.
D'accord. Le gars, il a attendu pendant une heure.
Tu peux témoigner. D'accord. Toi.
Non, mais alors, peut-être je suis pas clair, mais en tout cas.
Tu comprends ce que
ça
veut dire.
Ça veut dire qu'il te pose une question. Il te pose une question à la fin. D'accord.
Ouais.
Il t'a montré qu'il a rien compris.
D'accord. Okay,
je veux dire. Et ben, je peux te dire que lui, il se sent encore plus près d'Akadosh Baruch Hu que moi, qui ai une
question. Bon, d'accord. Oui, c'est ça, c'est une
question. Non, t'inquiète pas, parce que j'essaie de faire attention de moi.
Par exemple, je viens en cours de Tania pour me rapprocher d'un cadavre pas beaucoup, c'est clair. Tu crois que
quelque chose. Il dit comme ça, il dit...
T'éloigner de ta femme.
Le gouf, le nefesh, ouais, le mammon. Ni les intérêts liés au corps, ni les intérêts liés à l'âme. C'est-à-dire pas même de dire que je fais quelque chose pour kiffer. Ouais. Vélo mammon, ni pour gagner de l'argent, vélo isha ou banim. Ni la femme et les enfants, qu'est-ce qu'on a expliqué ici? Ça veut dire qu'encore une fois, ça veut dire qu'à chaque fois, je dois annuler mon ego. Je dois chercher, d'accord? C'est pas je dis, je me suis marié avec une femme. C'est pas je dis, je me suis marié avec une femme par plaisir. J'ai eu des enfants, c'est un kiff d'avoir des enfants, c'est un kiff. C'est vrai qu'au début, on galère un peu, mais après, t'as une famille et tout, c'est un kiff, c'est l'ego. Non! Abstraction de l'ego. Zeyuvan... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question,
on
d'accord
va le cours,
on va faire du ça, tout ça. Moi, j'ai rien compris.
C'est compliqué, tout quoi.
Qu'est-ce que t'as pas compris?
Non, c'est très intéressant.
Qu'est-ce que t'as pas compris?
Non, faut laisser compliquer tout ça, parce que c'est vraiment...
Ah, tu veux dire
que c'est des Legos quand c'est pas des Legos?
Ça, je suis pas encore rentré dedans.
Ça, c'est
une bonne question.
Me tarde.
C'est pour ça que le chapitre 49 est encore long. Ça, je suis pas encore rentré dedans, j'ai pas touché à ça encore. J'ai pas encore expliqué qu'est-ce qu'on appelle Lego, qu'est-ce qu'on appelle... J'ai simplement dit le concept. Que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi, le concept qu'on est en train d'expliquer, c'est que nous aussi, on doit faire abstraction de nous-mêmes.
Bon, ça, c'est excellent.
Après le pourquoi, le comment, plus tard, on verra. Ça, dans ce chapitre, hein, attention, on va pas aller loin, dans ce chapitre. Madame Morazaken, il ouvre une petite parenthèse. Ah, bon, la beauté de Morazaken. Il va passer de l'abstraction de soi à un rajba sur Kriyat Shema. Vous allez voir un truc, a priori, aucun rapport, mais il va nous trouver un rapport. Alors, au basé, il va tout tatouftam vedat. Avec ça, on va comprendre avec brio les takanat, rachamim, shetif, nobrichot, Kriyat Shema, shtaim, lefanea. Parce que les rachamim ont instauré, les brachot du Kriyat Shema. Shtaim, lefanea. Donc deux brachot avant, etc. Avec les brachot qu'on a avant le Kriyat Shema. Il n'y a rien si dur ici. Fais-moi le chiffre, s'il te plaît.
3 le avant et 2 après.
Alors,
c'est la Mishnah.
Voilà, la pièce que nous avons dans la Mishnah. Alors, on va prendre par M. Harit. Qu'est-ce qu'on a dans M. Harit? On a deux brachot avant le Kriyat Shema. Deux brachot. Premier bracha, Yotzara uvoye chosher osu shalom uvoye atakol. On parle de la beauté d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé. On parle d'abord de la création du monde. D'accord? La beauté de l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, progressivement, plus on avance, plus on parle des malachim, etc. Bon. Et qu'on arrive à la fin, Baruch HaTashem, Yotzer HaMeorot, on bénit Akadosh Baruch Hu, qui a créé les luminaires. Donc on parle de la création du monde. Deuxième bracha, Ahavat Olam Aftanu Hashem Elokeinu, on parle de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous a aimé. Et on retrace en quelques lignes les grands miracles, les grandes lignes des miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. D'accord ? Baruch HaTashem, Abocher Bamo Yisrael, Be'ava, qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Bon. D'accord, ça c'est le bracha. Donc a priori, une bracha qui parle de la création du monde. Une deuxième bracha qui parle de l'amour que Dieu a nourri envers Israël, dans lesquels on retrace très rapidement les grandes lignes, des grands événements qui sont passés avec l'âme Israël. Bon. Il y a une grande question qui est posée dans le Mefarshim. Le Rajba pose la question suivante. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est des brachas qui sont très belles. D'accord, c'est des brachas qui sont très belles. Bon, une bracha parle de la nature, l'autre bracha parle de Ahavat Olam. Mais quel rapport avec le Kriyat Shema? Quel rapport? Pas de rapport?
Ben si.
D'accord. Une seconde. Moi, je dis la question du Rajba.
La création du monde, déjà, c'est un rapport.
Très bien. Mais quel rapport avec le Kriyat Shema? Le Kriyat Shema, c'est la... Deux secondes, j'explique la question d'abord. Le Kriyat Shema, c'est la soumission... On nous parle de la soumission de l'homme envers Akadosh Baruch Hu. Quel rapport entre l'œuvre, le Kriyat Shema, et les deux brachot qu'on est en train de nous dire avant? Tu me parles de la nature, tu me parles du fait que Dieu nous aime. Quel rapport? On parle de beaucoup de choses dans la tefila. Je veux dire, ces brachot-là, on aurait pu les mettre au début, à la fin. Quel rapport elles ont?
Tu poses déjà, non?
Très bien. Alors, deux secondes. Le Rajba pose la question. Plus que ça, plus loin que ça, il va le Rajba. Le Rajba, il nous pose deux questions. Pour nous montrer, pour nous dire explicitement comment ces brachot-là n'ont a priori rien à voir avec le Kriyat Shema. Il donne deux exemples. Premier exemple. Si une personne fait arvit avant que la nuit tombe. Fait arvit avant que la nuit tombe. D'accord ?
Est-ce qu'on appelle
Mibadim ?
Oui.
Une seconde.
Est-ce qu'il fait,
c'est quoi la lacha ? Est-ce qu'il fait les brachot du Kriyat Shema ?
Oui.
Oui. Mais est-ce qu'il est quitte du schéma ?
Non.
Non. Alors je vais poser la question, mais je ne comprends pas. S'il n'est pas quitte du schéma, et que les brachot sont censés être les brachot du Kriyat Shema, donc ça ne marche pas, pourquoi il fait les brachot du Kriyat Shema? Ça c'est première preuve, de là dit de là on comprend, que les brachot du Kriyat Shema ne sont pas, il dit là-bas, lave mamash bichot Kriyat Shema inu. C'est pas vraiment la brachot du Kriyat Shema, c'est des brachot qui ont été greffés au Kriyat Shema. Mais en vérité, c'est une bracha à part entière. C'est pour ça que quand je fais arvit en pleine journée, et que le schéma, je devrais le refaire le soir, les brachot du Kriyat Shema, je les dis quand même en pleine journée. Pourquoi? Parce que les brachot du Kriyat Shema ont une importance à elles-mêmes, à elles seules. C'est le premier exemple. Deuxième exemple. Je lui dis le Rajba. Si une personne a lu le schéma le matin sans brachot, il n'a pas fait le brachot du Kriyat Shema, il s'est déjà rendu qui du schéma. Schéma, il sera chez le Kriyat Shema, il fait les trois brachot. Ensuite, il arrive juste avant la Amida, au brachot du Kriyat Shema.
Est-ce qu'il est fait?
Le Rajba pose la question, il dit, mais je comprends pas, quel sens ça a maintenant de faire les brachot du Kriyat Shema? Les brachot du Kriyat Shema, normalement, sont là pour me rendre, sont liés autour du schéma, mais le schéma, je suis déjà quitte.
Ouais.
Pourtant, je l'ai dit quand même.
Ouais.
Donc de là, on voit quoi? En plus, nous dit le Rajba, on voit que on ne fait pas la bracha Asher qui déchaîne nous, Mitzotav et Tivanou, l'écrou Kriyat Shema. Il n'y a pas de bracha comme ça. C'est-à-dire de là, on voit clairement que ces deux brachot qui sont autour du schéma, mais qui ne sont pas, d'accord, mais qui sont pas liés à 100% au schéma. Alors écoutez bien la question que le Morazaken va poser. Avec ça, vous allez comprendre. Bon, je suppose que vous voyez déjà la réponse, elle s'en expliquer. Donc Deli Chora, En Lem Sheikhout Lan Kriyat Shema.
Deli mérite.
Voilà.
Deli Chora.
C'est la femme et l'enfant. Les deux brachot.
Ah non, on va voir.
Ça n'a pas de mérite.
Aucun mérite.
Deli Chora, En Lem Sheikhout Lan Kriyat Shema. Qu'a priori, ces deux brachot, a priori, ces brachot là n'ont pas de rapport avec le Kriyat Shema. Ils n'ont pas de rapport, comme s'en expliquer. Moshe Katavarajba ou Sharposkim. Comme ce que le Rajba a expliqué, donc comme ce que je viens de vous expliquer, ou Sharposkim, et les deux décisionnaires. Velama Karuotam Bechot Kriyat Shema. Alors dans ce cas-là, pourquoi on les appelle les brachot du Kriyat Shema? Même dans le Shulchan Aruch, on les appelle les brachot du Kriyat Shema. Velama Tiknota Lefanea Dafka. Et pourquoi ces brachot, on les a instaurés avant le Kriyat Shema? Je veux dire, pourquoi? Et là seulement, Mishum. Sheikar Kriyat Shema. C'est quoi le but principal du Kriyat Shema? Les Kayem Bechol Levavra Bishne Yetzarecha. C'est quoi le but principal du Kriyat Shema? Ve'avta Hashem Elokecha Bechol Levavra, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha. Tu aimeras Hashem de tout ton cœur. C'est quoi le cœur? Em Aisha Viladea. Le cœur, c'est la femme et les enfants. Chez le vavo, chez la dame Kshura Ben Betivo, que le cœur d'un homme est lié à eux par nature. Quand la Torah a dit tu aimeras Hashem de tout ton cœur, ça veut dire quoi de tout ton cœur? Ça veut dire qu'avec ta femme et tes enfants, en d'autres termes, ça veut dire tu devras faire abstraction de ton ego qui aime ta femme et tes enfants. Comment c'est amour, rabotez-nous, c'est Khonel Bachar. Je vais un peu vite parce que j'ai expliqué à l'oral. Comme les Rachamim m'ont dit, ou à Marvaye Zoïcha, ou Tsivavaya Amod et Loubanim. Donc de là on voit clairement que quoi? De là on voit clairement ici que le lien qu'il y a entre un homme et sa femme, c'est un lien qui est naturel. Le fait qu'un homme aime sa femme, c'est naturel. Le fait qu'un homme aime ses enfants, c'est naturel. Naturel de quoi? Naturel de l'ego. L'ego, c'est un élément primaire chez l'homme, chez l'animal, n'est-ce pas Yaakov? Partout, tout le monde, tous les, c'est la base même de l'humanité, c'est l'ego. Et qu'est-ce que te dit la Torah? On te dit ici que Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem Bechol Levavcha. Tu devras faire abstraction de tout, même de l'ego naturel, de tout ce qui est naturel, comme la femme et les enfants. Que tu devras savoir que si tu aimes ta femme et tes enfants, c'est pas parce que c'est un kiff, c'est parce que c'est une mission que Kadosh Baruch Hu t'a donnée. Ve'navshecha u'modecha, après qu'il est dans le schéma, il dit tu aimeras Hashem de tout ton cœur, donc on a dit tout ton cœur, ça veut dire dans toutes les choses que tu es tenté d'aimer naturellement avec ton ego, tu dois faire abstraction de ton ego. Bechol navshecha u'bechol modecha. C'est quoi navshecha u'modecha? Kemashma u'chayom zoné. C'est comme le sens simple. C'est l'argent. Et, mais donc l'argent, donc la vie, pardon, et la parnassa, donc l'argent, d'accord? L'argent et la vie. Le'afkir akol bishvil avat Hashem. De tout délaisser pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu.
De tout ton cœur, ça veut dire que tu dois...
Ça veut dire de tout ton... Ah, deux secondes, donc ça veut dire... C'est quoi le but du Kriyat Shema? Le but du Kriyat Shema, c'est ce qu'on vient d'expliquer longuement dans le cours d'aujourd'hui. C'est de faire abstraction de son ego, c'est ça le schéma. Bechol levavra, bechol nafshecha, bechol modecha. Dieu, il tu m'aimeras de tout ce que tu aimes, de tout ton argent et de toute ta vie. Ça veut dire quoi? Normalement, un homme, naturellement, d'accord? Il aime sa vie, il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime son argent. Qu'est-ce qu'on lui dit? Dieu, il dit, tu m'aimeras avec tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu feras abstraction de tout ça pour m'aimer. Tu devras te prouver et te dire intérieurement que la raison pour laquelle tu aimes ta femme, la raison pour laquelle tu aimes tes enfants, la raison pour laquelle tu aimes l'argent, la raison pour laquelle tu aimes tout ça, c'est parce que tu m'aimes à moi. Faire abstraction de soi. Comment on peut arriver à ça? Je conclue parce qu'on s'arrête là. Ça c'est le preview de la semaine prochaine. Comment un homme peut arriver à ça? Comment tu peux arriver à ça? Comment on peut arriver à faire abstraction de soi? Les karsidro trila bechat yotzaror. C'est pour ça que les chachamim ont instauré, avant le schéma, les deux brachot qui n'ont a priori rien à voir avec le schéma. Mais comme on l'expliquera la semaine prochaine, longuement, Bezrat Hashem. Ces deux brachot-là, c'est la clé de la réponse, comment faire pour faire abstraction de soi. Ça veut dire que le but du schéma, c'est de faire abstraction de soi. Comment faire abstraction de soi? La réponse se trouve dans les deux premières brachot du schéma. Où elle se trouve? Réponse à une prochaine Bezrat Hashem.
Donne-nous quelques
exemples. Ah non. Bon. Tu peux voir un preview de ce que je vais dire la semaine prochaine.
Il va y avoir un lancement, une bande-annonce.
Bande-annonce.
Pour rester dans le...
Oui. Excuse-moi, je... Oui.
On fait le schéma quand quelqu'un disparaît.
Oui.
Et à ce moment-là, tu proclames de la même manière que
oui.
Tu aimes de cœur, tu peux avoir une douleur très profonde et tu continues à proclamer.
Je proclame que la vraie raison pour laquelle je vis, c'est la Kadosh Baruch Hu. Mais là, on est parti encore plus loin que ça. Là, on a dit que c'est pas seulement qu'un homme, il dit... Et tu peux avoir quelqu'un qui fait schéma, qui est très égoïste, mais qui dit, bon, au fond de moi, je sais qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il manipule tout, il maîtrise tout. On te dit, ça, c'est pas ça le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Levavra, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Ça veut dire qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu, pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut sacrifier son ego. Il faut que sur chaque chose, chaque événement qu'il y a dans ma vie, Là, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que j'ai pas envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de faire la mitzvah ou est-ce que j'ai pas envie de faire la mitzvah? Est-ce que j'ai envie de me lever ou j'ai pas envie de me lever? Est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que j'ai envie d'étudier ou j'ai pas envie d'étudier? C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que Dieu veut que je le fasse ou que Dieu ne veut pas que je le fasse pas? Ça s'appelle sacrifier son ego. Et c'est ça ce qu'on dit, Ve'aftait, Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem. Pour aimer Akadosh Baruch, il faut sacrifier son ego. Pourquoi sacrifier son ego? Puisque Akadosh Baruch, comme on a expliqué longuement dans les 5 cours précédents, Akadosh Baruch, pour nous créer, il a dû se sacrifier. Il a dû se sacrifier, il a dû se... Enfin, peut-être pas se sacrifier, mais en tout cas, il a fait abstraction de soi, se mettre en retrait. Donc, à plus forte raison que nous aussi, on doit se mettre en retrait. Nous aussi, on doit faire abstraction de soi. Maintenant, comment je peux arriver à ça? C'est très dur, c'est impossible. Mais, comme on l'a dit, les hommes, c'est la base même du monde. Les hommes, qu'est-ce qui fait les relations humaines? C'est l'ego. Qu'est-ce qui fait les relations entre les animaux? C'est l'ego. Tous, c'est l'ego. C'est l'ego. D'accord? Exactement. Qu'est-ce qui fait l'élément de survie? D'accord? L'instinct de survie? C'est l'ego. Tout est l'ego. Alors comment je fais pour faire abstraction de mon ego? La réponse se trouvera la semaine prochaine, dans les deux premières brachot qu'il y a avant le Shema.
Parce que si j'ai bien compris, juste pour quand on est Terra Meorot, on est au top de la création, on est au monde d'Atsilut. Et à Avatolam, c'est tout a été créé pour nous.
Non, en gros, la réponse, c'est normalement, vous avez déjà compris la réponse. Enfin, en gros, la réponse va être que dans les brachot de Yotzer Meorot, les deux brachot qu'il y a avant le Shema, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler, constamment, tous les jours, on va se rappeler comment Dieu a dû faire abstraction de soi.
Pour quelle raison? Pour
d'accord. Israël. Et deux secondes. Que Dieu a dû faire abstraction de soi pour nous, pour Abraham, Bamo Israël, Be'ava. Ça veut dire que Dieu a fait abstraction de soi pour nous. Et donc là, Kemaim, Apanim, Apanim, Kenlev, Adam, l'Adam. Donc nous aussi, par retour, d'accord. Nous aussi, on va comprendre que nous sommes de faire abstraction de soi pour l'aimer. Mais on va mieux expliquer ça avec dans les détails, etc.
La semaine prochaine. Une question qui n'a rien à... je veux pas aller plus loin, mais une question quand même.
Ouais.
Quand tu dis pour nous, c'est quoi nous pour toi? Parce qu'une fois que tu as enlevé la Neshama qui appartient à Dieu, c'est parti.
Pour les Neshama d'Israël.
Le corps.
Les Neshama d'Israël.
Oui, mais c'est une partie d'Hachem.
Oui.
Donc il s'aime lui-même.
D'accord. Mais en tout cas, ça ne change pas. Parce que en tout cas, même si c'est lui-même, il a dû faire abstraction de soi pour qu'une partie de lui-même.
La rupture.
Une partie de lui-même ait l'air indépendante. C'est très dur ça. Oui, c'est encore plus. Tu veux je te dis, c'est encore plus dur. C'est que si tu as une machine et que tu vas essayer qu'une partie de la machine va. C'est comme si tu as une boîte, une entreprise. D'accord. Et tu vas essayer de donner à certains employés un sentiment d'indépendance alors qu'en vérité tu continues à les maîtriser, c'est très très dur. Ouais, c'est un travail énorme.
Ça s'appelle déléguer et déléguer, c'est ce qui
nous a bluffé.
C'est très très dur. Abstraction de soi, ça c'est le message du Kriyat Shema. Voilà, j'arrête ici.